BW. Magazine Santé.
C'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Selon l'OMS, en 2022, le cancer du sein a provoqué quelque 670 000 décès dans le monde. Le cancer du sein est présent dans tous les pays du monde, d'où l'importance de sensibiliser sur le sujet. Nous irons en République démocratique du Congo où des actions de sensibilisation et de dépistage précoce sont organisées en dépit de certaines difficultés. Dans ce magazine, il sera également question de la tuberculose chez les enfants. Vous écoutez Capsule Santé, Carole Assignon au micro. Bonjour à toutes et à tous. Le cancer du sein, c'est une maladie qui se caractérise par une croissance incontrôlée de cellules mammaires anormales qui finissent par former une tumeur. Quand il n'y a pas de prise en charge, les tumeurs se propagent dans l'organisme. Au tout début, le cancer du sein est asymptomatique chez la plupart des malades, d'où l'importance du dépistage précoce pour une meilleure prise en charge. En République démocratique du Congo, où le cancer du sein touche aussi de nombreuses femmes, la majorité de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et le traitement de la maladie reste un défi majeur. Le reportage de Merveille Hassani.
Tout a commencé en 2016 par un petit bouton au niveau du sein. Après les examens, le résultat a révélé que maman était atteinte par les cancers du sein. Vu qu'il n'y avait pas de prise en charge, nous étions aussi dans une situation financière très précaire. On tournait juste dans des centres de santé, ne fût-ce que pour le calmant de douleur. Transférée dans un grand hôpital, le médecin en dit que c'était trop tard. Maman est morte en 2020.
Héritier raconte ainsi le calvaire de sa mère Elisabeth. Après plus de 2 ans de souffrance, d'hôpital en hôpital, à 45 ans, elle a succombé suite à un cancer du sein. En République démocratique du Congo, le cancer du sein est une maladie silencieuse qui continue de faire des victimes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2023, le nombre de malades du cancer du sein était de 1064 cas, dont 163 à Kinshasa. Dans un pays où le seuil de pauvreté est élevé, la prise en charge est quasiment inexistante. Les femmes atteintes de cette maladie sont confrontées à de nombreuses difficultés. Les coûts des consultations, des traitements et des médicaments représentent un fardeau énorme pour les familles déjà précaires. La prise en charge du cancer du sein est coûteuse, indique l'oncologue Célestin Kachunga.
Beaucoup de malades de cancer en RDC sont à la maison au lieu d'être à l'hôpital. Faute de moyens. La prise en charge moyenne ici au Congo, lorsque vous avez un cancer, même à un stade précoce, les coûts, il faut avoir au minimum 30 000 $. La disponibilité des médicaments, communément appelés les anticancéreux, pose problème dans notre pays. Des fois, il faut commander des anticancéreux à l'étranger. Vous commandez aujourd'hui, ça vient après 2 mois et on trouve la patiente déjà décédée.
La durée de vie d'une personne atteinte du cancer du sein dépend du moment de la prise en charge. Généralement, quand le soin commence tardivement, la durée de vie de la patiente ne dépasse pas 5 ans maximum, souligne le médecin. Dans la capitale congolaise, une seule structure dispose de l'équipement nécessaire pour faire la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Pourtant, selon les recommandations de l'OMS, sur 2 millions d'habitants, il faudrait avoir au moins un appareil de radiothérapie. À Kinshasa, malgré ces défis, de nombreuses associations et organisations sont engagées pour sensibiliser et prévenir le cancer du sein. Comme dans d'autres pays, le mois d'octobre rose est le plus fréquemment consacré à des campagnes de sensibilisation.
Ainsi que des jeunes dans la capitale Kinshasa.
L'Association internationale de lutte contre le cancer, ASICAS, joue un rôle important. Le coordonnateur de l'ONG, Célestin Kachunga, explique.
Et par rapport au cancer du sein, ce que nous faisons d'abord, c'est la sensibilisation de la population. À part ça, nous sommes aussi dans le cadre de faciliter l'accès au dépistage et aussi les orienter vers les structures spécialisées pour la prise en charge médicale. À ce qui concerne les lésions précancéreuses, à notre niveau, nous traitons ça immédiatement, gratuitement aussi. Mais nous sommes suivis par le financement de nos partenaires.
La sensibilisation, les dépistages précoces et l'accès aux soins sont essentiels pour sauver des vies et offrir un avenir meilleur aux femmes congolaises. Pour améliorer la prise en charge du cancer du sein en RDC, Dr Étienne Poyi, chef du département de maladies non transmissibles au bureau de l'Organisation mondiale de la santé à Kinshasa, souligne la nécessité d'un engagement accru du gouvernement.
Le plan stratégique de lutte contre le cancer reste une priorité. Le pays devra poursuivre aussi la mise en place du cadre organique. Il y a les centres nationaux, mais il faudrait que ce cadre-là puisse s'étendre jusqu'au niveau décentralisé. Le Centre national de lutte contre le cancer et la coordination de la CSU devront poursuivre leur collaboration et pour améliorer l'accès de la population au diagnostic et les traitements des cancers. Cela est important parce que le cancer coûte cher. Le dernier point, la disponibilité de l'information sur le cancer.
Les autorités congolaises doivent donc s'impliquer davantage dans la lutte contre le cancer, notamment celui du sein. Ceci afin d'augmenter les chances de survie de femmes qui en souffrent. Merveille Hassani à Kinshasa pour la Deutsche Welle.
Vous écoutez Capsule Santé sur la Deutsche Welle et nous allons à présent parler de la tuberculose. Précisément chez les enfants. Récemment, l'organisation Médecins sans frontières a appelé à une action urgente des gouvernements et des bailleurs de fonds pour mieux prendre en charge les enfants atteints de cette maladie. On en parle tout de suite avec le docteur Daniel Martinez-Garcia, pédiatre et chef du projet tactique de MSF.
DW.
Bonjour docteur Martinez-Garcia.
Bonjour.
Vous êtes responsable du projet tactique, peut-être pour commencer, puisqu'avec vous on va parler de la tuberculose, peut-être pour commencer, pouvez-vous nous préciser un peu ce que c'est que le projet tactique?
C'est un nouveau projet où, au lieu de cibler la tuberculose comme maladie des enfants, on est plutôt dans des projets. Donc ces projets qu'on appelle, qui ciblent une maladie, on les appelle des projets verticaux, qui ciblent une maladie spécifique, mais à MSF on a beaucoup de projets horizontaux. Par exemple, on travaille dans un hôpital ou dans des centres de santé. On donne accès à des soins à une population ou à un groupe d'une population et pas une maladie spécifique. Et ça, c'est des projets qu'on appelle horizontaux. On sait qu'il y a des cas de tuberculose parmi les enfants. On a du mal dans nos projets très généralistes à détecter un nombre suffisant par rapport à ce qu'on sait qu'il devrait y avoir. En fait, on a des estimations, surtout sur certaines populations, et on a des chiffres de prévalence de la maladie dans certains pays. Et quand on voit dans nos projets, on a du mal à détecter ces cas. Et quand on les détecte, on a du mal à les mettre sous traitement.
Et pourquoi est-ce si difficile de détecter ces cas de tuberculose, ouais, puisque dans son dernier rapport sur le sujet de la tuberculose, MSF attirait l'attention sur le fait que beaucoup d'enfants atteints de tuberculose ne sont ni diagnostiqués ni soignés. À quoi cela est dû?
Donc la première chose, c'est que c'est très difficile de diagnostiquer la tuberculose chez les enfants. La tuberculose chez les enfants, c'est une grande imitatrice de maladies. Déjà, les enfants, ils peuvent avoir beaucoup de symptômes. Par exemple, ils peuvent avoir une fièvre chronique sans autres symptômes, ou des ganglions inflammés, ou même une diarrhée chronique, ou une toux persistante. Et deuxième élément, même quand le clinicien dit « là, c'est peut-être la tuberculose », les outils diagnostiques sont très difficiles de les appliquer chez les enfants. Pourquoi? Parce que, par exemple, disons que c'est un enfant qui a une tuberculose, même pulmonaire, respiratoire, qui tousse de manière chronique, il a de la fièvre, il perd du poids. Le médecin, il pense que c'est une tuberculose et il veut faire un test confirmatoire. Et c'est très difficile de confirmer la tuberculose chez les enfants parce que dans l'expectoration, cet enfant, déjà, c'est très difficile de le faire cracher, mais disons qu'on arriverait à le faire cracher. Dans ce crachat, il y aura très peu de bactéries et donc on aura souvent des faux négatifs. Donc, même si on a un cas très typique et on a un médecin qui a vraiment porté la TB et c'est un enfant qui a la TB, même si on fait un test confirmatoire, on est très probablement, on aura un test négatif. Donc, avec tout ça, on a un grand gap. Et comme je vous dis, beaucoup de cas n'ont même pas, on n'obtient même pas un crachat parce que c'est pas une forme respiratoire. Et quand c'est des formes respiratoires, les tests diagnostiques actuels sont très mauvais, sont pas sensibles suffisamment pour les tests faits chez les enfants.
Est-ce que le fait que ce soit si difficile de diagnostiquer la tuberculose chez les enfants, est-ce que cela augmente le risque pour les enfants de développer la tuberculose maladie, puisqu'il y a plusieurs formes de tuberculose?
La plupart des enfants attrapent la tuberculose étant en contact étroit avec un adulte qui a la tuberculose. Donc, à chaque fois qu'on trouve un cas de tuberculose chez un adulte, on devrait être meilleur pour détecter s'il y a des personnes de très jeune âge vulnérables près d'eux. Et souvent, ce travail n'est pas fait parce que déjà, les systèmes les programmes nationaux de déviation, ils sont surchargés. Donc, si en plus de traiter les cas actifs qu'ils ont, ils doivent commencer à chercher les contacts, c'est très dur. Et on sait que la plupart de ces enfants, ils ont une phase, qu'on appelle cette phase, ils ont une TD latente. Donc, au début, ils n'ont pas de symptômes. Donc, ces enfants-là, ils n'ont pas de symptômes. Donc, c'est très difficile. On devrait les mettre sous traitement préventif avant qu'ils développent la maladie. Quand ils développent la maladie, souvent, c'est trop tard. Donc, quelque chose qu'on a mis sous évidence à MSF, c'est que la plupart des jeunes enfants qui décèdent de tuberculose, ils vont mourir sans avoir pu commencer un traitement de tuberculose.
Comment sont pris en charge les enfants qui souffrent de tuberculose actuellement ?
La tuberculose, c'est vraiment une maladie négligée qui touche les populations les plus vulnérables. Donc historiquement, c'est une maladie qui a été oubliée un peu du radar de la santé globale. Aujourd'hui, on en a entendu parler un peu plus avec l'essor du VIH, parce qu'il y a eu beaucoup de co-infections. Et on a heureusement, dans les dernières décennies, pu un peu avancer dans le développement de formulations pédiatriques. Et il y a encore un gain. Pour les enfants qui sont atteints d'une tuberculose latente, on a des formulations où on peut leur donner un traitement adapté à leur âge qui dure 3 mois. Et pour les enfants atteints d'une forme simple de tuberculose, il y a des schémas de 4 mois de traitement. Mais malheureusement, dans beaucoup de pays, on n'utilise pas encore ces schémas qu'on appelle courts. Ça reste plusieurs mois de traitement, mais pour le monde de la tuberculose, il peut penser on a aujourd'hui des traitements très très longs encore dans beaucoup de pays. 9-12 mois de traitement. Donc, un travail important, c'est donner accès à ces thérapies courtes le plus rapidement possible à tous les enfants. Ces médicaments existent. Il y a tout un travail qui est fait par la communauté globale pour qu'ils soient de plus à des prix réduits. Et aujourd'hui, il y a tout un travail maintenant sur l'adaptation des protocoles nationaux et après, la réalité de ce qui, par exemple, un pays peut sur papier, dans leur protocole, déjà avoir mis les nouveaux traitements, mais peut-être que dans le pays, le traitement n'est pas encore disponible, où il y a des ruptures de stock, où ils n'ont pas les moyens pour avoir suffisamment de traitements. Et c'est un cercle vicieux. On ne recherche pas plus de cas pédiatriques parce que parfois, on n'a pas suffisamment de traitements dans le pays. Et donc, nous, on veut payer à boucler la boucle. On va en trouver plus et on veut supporter les programmes nationaux de tuberculose pour pouvoir avoir accès à suffisamment de médicaments pour tous les cas.
Capsule Santé, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci pour l'écoute. D'ici au prochain numéro, rendez-vous sur nos différentes plateformes pour écouter le podcast de l'émission.